Voix Nues. Cette semaine, Élodie Maillot rencontre Angélique Kidjo. Ce soir, S'enraciner.
Bonsoir Angélique Kidjo.
Bonsoir.
On l'a vu toute cette semaine, Angélique, vous portez l'Afrique en vous et vous la portez en haut lieu, c'est évident. Vous la vivez aussi dans un contexte totalement contemporain, ce qui n'est pas du tout contradictoire et vous le prouvez. Mmh. Aujourd'hui, vous êtes béninoise, française, américaine. Qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Ce n'est que des passeports. On est citoyenne du monde au fond de cœur et de pensée.
Est-ce que pour vous, Angélique Kidjo, les États-Unis c'était le pays des possibles ou est-ce que c'était aussi un pays avec un passé, une histoire douloureuse ? Donc est-ce que c'était un peu plus complexe que cela pour vous de vous y installer ?
C'est un mélange de tout. Et c'est très complexe d'être de vivre là-bas et parce que les relations entre les Noirs, les Africains et les Noirs américains, c'est pas facile.
Lorsque vous êtes arrivée aux États-Unis, est-ce que vous avez eu l'impression d'être perçue différemment en tant qu'Africaine aux États-Unis par rapport à la France ?
Absolument. Tout d'abord, je n'ai pas d'histoire de colonisation avec les États-Unis. Donc on n'a pas ce rapport-là du tout. Le paternalisme n'existe pas. Et ce qui intéressait les gens, c'est ma culture. Cette culture qui, certains d'entre eux le disent, est à la base de leur musique.
Le blues.
Le blues, tout. On parlait de rythme. On parlait de comment les rythmes se découpaient, comment on faisait ça. Et on parlait aussi, moi ce que j'observais énormément, c'est la démarche des Noirs américains par rapport aux Africains, ce n'est pas pareil du tout. On ne marche pas de la même façon, pas dans le même rythme, absolument pas.
Ah bon ?
À moi, quand je vois un Noir américain marcher, je sais que c'est un Noir américain. Ils sont sur le deuxième temps tout le temps, c'est-à-dire qu'ils sont... la façon dont leur corps bouge, nous on est là, pan, 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 pan. Eux ils sont, tac, tac. La façon dont ils marchent, c'est ça, c'est toujours... Ça balance, quoi. Les Noirs américains, ils sont... C'est pareil. Si vous voulez, ce n'est même pas par rapport au rythme, c'est par rapport à leur histoire. Marcher et avoir un regard partout, en fait. Être dans le qui-vive tout le temps. À cause du racisme et du fait qu'on peut te tirer dessus venant de nulle part. Et c'est ça aussi qui est cette démarche-là. Alors que les Africains, chez nous, on a une direction, on va direct, quoi. On ne pose pas de questions, on n'hésite pas, c'est direct. Voilà. C'est deux histoires complètement différentes. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des gens qui, juste aujourd'hui, ne veulent pas entendre parler de par exemple, de moi, parce que je viens du pays du vaudou. Tout le monde pense que parce que je viens du pays du vaudou, je peux jeter des sorts aux gens. Moi, je ne connais rien à ça, moi. Je n'ai rien fait pour... C'est la culture de mes ancêtres, je suis née dedans, et je n'ai pas à questionner ça, je n'ai pas à être jugée par rapport à ça, c'est tout.
En arrivant aux États-Unis, vous n'arriviez pas tout à fait en terre inconnue, Angélique Kidjo. Vous aviez quelques role models, comme on dit aux États-Unis, quelques modèles américains, ouais. Quelques figures qui ont construites.
Oui, bien sûr. Il y a d'abord eu l'accueil de Branford Marsalis, parce qu'on s'est rencontrés à Paris.
Donc un saxophoniste de la Nouvelle-Orléans.
Je ne savais pas qui il était. Quand il me disait qu'il jouait au saxophone, je lui disais, tu lui as posé la question, tu joues bien. Il me dit, bon, je joue un peu, je me débrouille. Et après, quand j'ai su qui il était... Je me suis mise la honte toute seule, quoi. Et il m'a dit, quand tu viens aux États-Unis, tu restes avec moi. Donc, quand on est arrivé aux États-Unis, on est resté chez lui pour qu'il me donne un peu les clés des choses. Donc, il a joué sur Oremi, le premier album de la trilogie. Et après, on s'est installé petit à petit. Et j'ai rencontré Cassandra Wilson avec Isaac de Bankole qui avait bougé aussi là-bas. Et il y avait niché de gens comme ça un peu partout que je retrouvais souvent qui étaient des musiciens et voilà c'est comme ça que ça a commencé et parler musique c'était toujours on peut parler pendant des heures de musique de tel rythme par rapport à tel village de machin par rapport à ceci
mais avant ça vous aviez aussi découvert les États-Unis
à travers la musique
à travers les pochettes de Jimi Hendrix et
la musique de James Brown. La musique de James Brown, c'est incroyable. Quand je suis arrivée, j'ai fait une interview en 96 avant de m'installer avec Timothy White, qui était l'éditeur en chef du magazine Billboard. Puis à un moment donné, il me fait, il y a un coup de fil pour toi. Quelqu'un dit, Monsieur Brown veut te parler. Je dis, c'est qui Monsieur Brown? Je ne connais pas. Je ne prends pas. Il me dit, c'est James Brown. Je dis, non, c'est pas sérieux. C'est pas James Brown qui me parlait. Il me dit, vas-y, prends le téléphone. Je dis, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Il dit, va prendre le téléphone. Donc je prends le téléphone lui avec son accent du sud, moi qui venais de la France, qui parlait à peine anglais, qui comprenait pas tout. Je dis yes, yes, yes. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à jouer. Soul, power. Je te dis, et puis ils ont commencé à parler musique en fait. Je ne comprenais rien. Il avait un accent du sud à couper au couteau, donc on a chanté. Moi, je chantais les guitares, il lui faisait la chanson, moi, je faisais les rythmes, il chantait. Voilà.
Il y avait aussi Aretha Franklin dans vos modèles américains.
Exactement. La première pochette de disque, c'était Aretha assise devant une église. Donc pour moi, jusque-là, les pochettes de disque, il n'y avait que des mecs dessus souvent. Les blancs, les noirs, et puis les femmes blanches. Et pas, franchement, pas de noirs. La première noire que j'ai vue sur une pochette de disque, c'était Aretha Franklin. Et pourquoi ça a attiré mon attention? C'est parce que le chanteur du groupe de mon frère disait « Mais moi, je ne peux pas chanter ça, c'est pas, je suis pas chantable. » Alors moi, je passe par derrière, je vais regarder le disque sur lequel il ne peut pas chanter. Je dis « Ah, c'est une femme qui le chauffe, lui. Ça me plaît beaucoup, celui-là. Celle-là, je vais aller l'écouter tout de suite. » Et je l'ai mis à Aretha. Je me suis dit « Bon, laisse tomber, mon gars, tu ne pourras jamais chanter ça. Elle est trop forte pour toi. » Et ça a commencé comme ça. Je me suis dit « Mais maintenant, où est l'africaine alors ?» Alors, Myriam arrive, Bella Bello arrive, Celia Cruz arrive. Ben, ça commence, ça ne s'arrête plus. Donc, ça, je me suis dit « Bon, maintenant, je peux faire cette carrière-là. »
Qu'est-ce que vous avez entendu dans la voix et la musique d'Aretha Franklin qui vous a accroché, qui vous a donné envie de rêver d'Amérique?
Ah, mais elle chantait comme dans les chansons traditionnelles. Les réponses, c'est les machines. Tu chantes et on répond. Call and response, comme on dit. Les questions-réponses, c'est tout. C'est ça la force de cette culture africaine qui est partie d'Afrique, qui est demeurée dans toutes les musiques. C'est tout le temps le même schéma. Il y a le chanteur qui entend la chanson, le cœur répond. Elle fait R-E-S-P-C-T, et le cœur font na 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 do to me, R-E-S-P-C-T, et le cœur répond. C'est tout le temps ça, tout le temps. Le blues, la soul, le funk, même le rap, il y a toujours des réponses. Il y a deux rappeurs, il y a quelqu'un qui répond à l'autre. Et c'est cette culture de questions-réponses qui est là, vraiment le ciment des musiques traditionnelles en Afrique qui a traversé les mers. Même dans le blues. Parce que la personne entend et tu réponds.
Tout ça, ça vient des cérémonies.
Exactement.
Est-ce que vous aviez rêvé d'Amérique? Est-ce que vous aviez rêvé de rencontrer, par exemple, Aretha Franklin?
Oh, j'ai rêvé de rencontrer tous ceux qui étaient sur les pochettes. La plupart d'entre eux étaient plus vivants quand je suis arrivée. Donc, j'ai rencontré Aretha à Radio City Hall quand on a fêté les 100 ans de Nelson Mandela avec Stevie Wonder. Donc, on a chanté après Stevie Wonder et Aretha Franklin, Alicia Keys et moi. Donc, c'était la pression. Elle a une grosse pression. Et mon mari, Jean, qui me disait, « Mais comment vous allez faire pour chanter après Aretha Franklin ?» J'ai dit, « Mais c'est un être humain, non? Attends, tu vas voir. » Je regarde Alicia, elle me dit, « Allez, viens, on va aller les chicoter. » Je dis, « Allez, on est parti. » Et on a déchiré la place. C'est tout. Elle était contente comme tout, Aretha. Elle nous regardait, elle dit, « J'ai dit, mais voilà. » Elle nous passe le bâton. On ne va pas la lâcher quand même. Elle nous a chauffé la salle. Il faut qu'on continue à la chauffer. C'est tout.
Est-ce qu'Angélique Kidjo, il y a eu des moments où vous avez eu le trac sur scène? Est-ce que c'est dur?
Oh, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé pendant longtemps. Ça m'est arrivé pendant longtemps jusqu'au jour où une longue tournée aux États-Unis. On devait jouer à Boston. On a eu des ennuis de moteur avec le tourbus. Et on est arrivé quelques heures avant de monter sur scène. J'étais crevée. J'ai pris une douche, j'arrivais pas à dormir tellement je me quittais pour le spectacle. Et je m'habille et puis j'attends juste à côté de la salle avant de monter sur scène. Et j'étais en train de me dire, je dis, mais t'es fatiguée là. Mais comment tu vas faire? J'ai fait mes gammes, je me suis réchauffée les cordes vocales, j'ai fait mes étirements, j'ai tout fait. Et tout d'un coup, je me ferme les yeux pour me concentrer. J'entends la voix de ma mère qui fait, avant de monter sur scène, il faut être prêt à être nu spirituellement. Eh ben, j'ai dit, mais je suis prête spirituellement, physiquement, peut-être pas, mais spirituellement, je suis prête. Et je suis montée sur scène. Les gens m'en parlent encore de ce conseil. Je dis, mais ce conseil, j'étais crevée. Je dis, c'était comme ça que t'es crevée. Et mais comment ça se fait? Passe quand t'es pas crevée, alors? Je n'ai plus ressenti la peur de monter sur scène. Jusque-là, j'avais le trac un peu tout le temps. Le trac a été fini direct.
C'était quelque chose qu'elle vous avait vraiment dit, votre mère?
Ouais, elle le disait assez... à ses acteurs et actrices.
Parce qu'elle était directrice d'une troupe de théâtre.
Bah, c'est elle qui a tout fait. Elle a écrit la pièce, elle a fait les costumes, elle a fait les décors, elle a appris à faire la lumière, elle a tout fait. C'était une femme de théâtre en tout. Donc, moi, j'entendais ça, je me disais, mais c'est quoi cette histoire d'être nue? Est-ce qu'elle peut être nue spirituellement? Et c'est vrai, elle disait toujours, la scène, c'est pas là où vous réglez vos comptes, vous les réglez avant. Votre ego, vous la mettez dans la poubelle avant de partir.
Et avant ça, le trac, il se manifestait comment chez vous?
J'avais le cœur qui battait très vite, mais ça m'empêchait jamais de chanter. Parce que chanter sur scène, c'était ce pourquoi j'étais née. Donc, être sur scène, c'était ma place. Donc, au bout de la première chanson, ma main tremblotait un peu sur mon micro, et puis après, la deuxième chanson arrive, c'est terminé. Je passe à autre chose, et le public, il est content. Du coup, je suis dans mon truc, dans mon monde, en fait.
Est-ce qu'il y avait une pression supplémentaire à chanter aux États-Unis pour vous, qui avez tellement rêvé de musique américaine ?
Non, pas du tout. Au contraire, je me disais, j'amène un truc nouveau. Donc, je suis très excitée de vous montrer ce que j'apporte, en fait. Ce n'est pas d'ego, rien de tout ça. C'est parce que cette musique m'a tellement nourrie que je me suis dit, j'ai quelque chose à apporter aussi qu'ils ont peut-être envie d'entendre. Et c'est pour ça que ça, je montais sur scène, je me disais, ça va être une expérience. Toujours.
C'est à partir du moment où vous avez eu votre fille que vous avez voulu entamer une recherche sur les descendants d'esclaves aux États-Unis. C'est à partir du moment où vous avez eu cet enfant que vous êtes partie aussi sur les traces de l'Afrique Nouveau Monde.
Ça a commencé quand j'avais 9 ans, quand j'ai commencé à entendre parler de l'esclavage.
Comment vous avez entendu parler de l'esclavage ?
Par rapport à Jimi Hendrix. Jimi Hendrix avait fait un disque qui avait avec un grand afro avec des serpents partout.
Une coupe afro
à mort. Et moi, à chaque fois, je l'entendais chanter. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Je me disais, mais c'est une langue africaine, ça. Lui, il est africain. Il ressemble trop à un africain. Il est doux, lui. Et mon frère m'a dit, mais non, ce n'est pas un africain, il est africain-américain. Et je l'ai regardé à 9 ans. Je lui ai dit, mais attends, tu te fous de moi, là ? On ne peut pas être africain-américain en même temps. Et il me dit, mais si, c'est un descendant d'esclave. Je lui ai dit, c'est quoi un descendant ? C'est quoi un esclave ? Il m'a dit, va demander à grand-mère. Et c'est 15 ans que j'ai pu comprendre ce que pouvait être l'esclavage en apprenant ce qui se passait en Afrique du Sud par rapport à l'apartheid. Et j'ai décidé d'aller aux États-Unis, aller à la rencontre donc de cette diaspora noire qui est partie dans les Caraïbes, qui est partie en Amérique latine et tout. Donc ça a été 3 disques. Le premier disque, ça a été Oremi, sur lequel j'ai repris donc Voodoo Child de Jimi Hendrix.
C'était pas innocent, Voodoo Child, pour vous, Angélique Kidjo.
Non, non, c'était pas innocent, c'était une réponse, en fait, pour que lui, il puisse trouver quelque chose de positif au vaudou, alors que tout le monde diabolise le vaudou. C'était assez intéressant pour moi de répondre en disant, oui, nous sommes les Voodoo Child de la musique, c'est clair, on est résilient, en fait. On est en face de tout ce qu'on a en face de nous, on réclame notre culture, parce que on est dans une culture, on ne le choisit pas.
Parce que vous êtes née dans le berceau du vaudou, il faut le rappeler au Bénin.
Je suis née à Cotonou, mais mon père, il est de Ouidah. Donc, le berceau du vaudou, il est partout au Bénin. C'est pas seulement à Ouidah, il y a à Bomé, il y a à Kétou, il y a partout. Il y en a au Nigeria, il y en a dans tous les pays de l'Afrique. Mais ça, peut-être pas, ça s'appelle pas vaudou, mais c'est exactement la même religion. Donc, j'ai fait ça sur l'album, j'ai fait Voodoo Child sur l'album Oremi. J'ai travaillé avec Kelly Price, j'ai travaillé avec Tommy Farragher, qui est un compositeur américain, blanc américain. J'ai travaillé avec Kenny Kirkland au piano. J'ai travaillé avec Branford Marsalis, j'ai travaillé avec Cassandra Wilson, c'était l'album. J'ai travaillé avec des noirs et des blancs, parce que je voulais qu'on ait ce dialogue par rapport à l'esclavage. Et c'est toujours un sujet tabou aux États-Unis aujourd'hui. Et on a essayé d'effleurer un peu avec Oremi. Et après, j'ai été à Salvador de Bahia. Et j'ai atterri à Salvador de Bahia, la première bouffée d'air que j'ai prise, je me suis dit, je suis à Cotonou, là.
Au Brésil, donc.
Ils utilisent l'huile de palme rouge pour faire à manger. On mange pratiquement les mêmes choses. Les beignets d'haricots, ils appellent ça akarajé là-bas, nous on appelle ça akara en yoruba. Jé, ça veut dire manger, c'est-à-dire que manger, ils appellent le akara, karajé, je mange l'akara. C'est hallucinant, assez hallucinant pour moi. Les rythmes, le candomblé, les chansons. J'arrive à des milliers de kilomètres de chez moi et j'entends des gens chanter en yoruba. Et ils ne parlent pas la langue. Et c'est là où on se rend compte que la mémoire d'un être humain, personne n'a de pouvoir dessus. On a beau faire un lavage de cerveau aux esclaves, soi-disant qu'ils vont oublier d'où ils venaient.
C'est ce qu'on obligeait les esclaves
exactement,
à faire.
Exactement.
Les esclaves qui quittaient le port de Ouidah pour partir en Amérique étaient sommés d'oublier.
Ah ouais. Les esclavagistes avaient fini par comprendre beaucoup de choses à force de venir et d'aller, de parler aux gens. Ils ont utilisé nos symboliques contre nous. C'est-à-dire qu'ils faisaient tourner les femmes 7 fois autour d'un arbre, les hommes 9 fois autour d'un arbre, avant de les embarquer près d'un marécage qui faisait peur la nuit parce que tu pouvais disparaître. C'était pas sain, en fait. Donc c'est pour ça qu'avant la tombée de la nuit, ce village de pêcheurs qui est Ouidah, tous les pêcheurs rentraient avant que la nuit ne tombe, pour pas avoir traversé ce marécage dangereux. Ils ont utilisé la peur de cet endroit et les symboliques pour pouvoir les embarquer plus facilement sans résistance.
Tout en leur disant, vous devez oublier d'où vous venez.
D'où vous venez et savoir que vous commencez une nouvelle vie. La plupart d'entre eux mouraient, on les balançait par-dessus la mer sans sépulture. Et cette histoire a survécu. Les Africains ont survécu par leur culture. La nourriture aussi. Parce que la nourriture au Brésil, c'est quand tu entends parler de Vatapa, c'est la nourriture des baptêmes chez nous. Vatapa, c'est la cérémonie de baptême s'appelle Vatapa. Et la nourriture qu'on fait pour cette cérémonie-là, ils la mangent là-bas.
Au Brésil.
Ah, bien sûr. Et c'est assez effrayant de voir la résistance et la résilience de du cerveau d'un être humain.
Quand vous arrivez au Brésil, vous vous sentez chez vous. Qu'est-ce que...
Ah.
Ça
ah oui, ah oui, quand j'arrive à Salvador de Bahia, je me sens chez moi. Parce qu'il y avait un restaurant qui s'appelait Casa do Bini. J'allais manger tout ce que je mangeais chez moi. Les épinards, les trucs et tout. Parce que j'étais loin de la maison, je me disais, si mes ancêtres pouvaient voir cet endroit, que les esclaves, malgré tout, ont maintenu. Parce qu'à un moment donné, il y avait tellement d'esclaves à Salvador de Bahia que les maîtres étaient en sous-nombre. C'est pour ça qu'ils ont laissé, ils ont mélangé les tribus en pensant qu'on allait se battre entre nous et nous entretuer pour équilibrer. Et non, on s'est retrouvés autour de la musique.
Mais qu'est-ce que les Brésiliens, les Américains, peut-être les Antillais ou les Cubains projettent sur une femme africaine, sur l'Afrique? Il y a forcément des fantasmes, puisqu'il y a eu du silence, de l'oubli, du non-dit. Comment est-ce qu'on relie ces fils-là, ces fils invisibles?
Moi, je n'ai jamais ressenti ça, en fait, par rapport au Brésil, aux hommes au Brésil ou aux hommes à Cuba. Ce qui était vraiment intéressant pour moi, c'est cette soif de connaître le continent. On a tellement envie d'aller en Afrique. Vous êtes du Bénin, on parle de rythme. J'ai travaillé avec Iléaïe, le groupe de percussion. Ils m'ont invité chez eux. Je chantais et ils jouaient. Je chantais n'importe quelle chanson et jouais. C'est une célébration de notre culture. Quand j'étais à Cuba, on m'a invité à une cérémonie de Santeria. Je dansais, je chantais. C'est un truc où, quelque part, ma présence valide leur culture. Valide leur identité. Parce que les pas de danse sont les mêmes. Quand je me mets à danser, on danse pareil. Les bras, les pieds. Comment on danse en Afrique de l'Ouest, on le trouve partout.
Angélique Kidjo, après être partie donc sur les traces de vos ancêtres et des esclaves à travers trois disques, donc une trilogie, Oremi, Black Ivory Soul et Oyaya, vous avez décidé de partir vivre aux États-Unis, enfin à peu près à l'occasion en tout cas de ce travail-là. Pourquoi l'Amérique et qu'est-ce que l'Amérique représentait pour vous?
C'était important pour moi d'être aux États-Unis pour le faire. Je savais que la technologie me le permettrait de le faire, mais j'avais envie de regarder les gens dans les yeux quand on commence à parler de l'esclavage pour voir quelles sont les réactions des gens et s'ils sont vraiment, ils ont vraiment envie d'avoir ce dialogue-là. Il y a eu beaucoup de résistance, contrairement à ce qu'on peut croire, parce que certains blancs américains ont un sentiment de culpabilité et ils n'ont pas envie d'en parler. Et j'ai entendu des Noirs dire, vous nous avez vendus. Je dis, moi, je t'ai vendu où? Sur quel marché? Dis-moi combien? Je n'ai rien à voir avec ça. Et il y a certains Noirs américains qui sont conscients que cette histoire doit être racontée et qu'on doit se parler pour avancer. Je n'aurais pas été sur place, les gens n'auraient jamais répondu à mon invitation. Il faut être sur place pour que les gens comprennent qu'on n'est pas là. Je ne suis pas là pour juger. Je suis là avec un projet artistique qui nous permettrait de montrer que malgré l'esclavage, on peut quand même vivre ensemble. Donc, il était important que je sois là. Donc, du coup, aller aux États-Unis, revenu pour aller au Brésil, là, c'est plus facile. Aller aux Caraïbes, c'était plus facile. Donc, j'ai fait tout ce travail en restant aux États-Unis. Et je suis restée aux États-Unis parce que musicalement, il y avait beaucoup plus d'opportunités. Ce qu'on appelle la world music ici, plus personne n'en avait, ne voulait plus en parler.
C'était en quelle année?
En 97. Mon dernier disque, c'était 96, que j'ai fait FIFA. Les chiffres de vente, 10 000 en France, 100 000 aux États-Unis, je me suis dit, bon, je vais me bouger là-bas. Donc, c'est comme ça, je vais là-bas. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à me rendre compte qu'il était intéressant que je reste ici pour ce travail, parce que il y a une méconnaissance des deux côtés, de la lutte des Noirs américains et des traumatismes de l'esclavage sur l'Afrique aux États-Unis.
Angélique Kidjo, en septembre 2016, vous avez aussi chanté à l'inauguration du National Museum of African American History and Culture à Washington, D.C., la capitale. Qu'est-ce que ce musée représentait pour vous et puis le fait d'avoir été choisi pour accompagner ce projet qui a été mené
Et je suis dans le musée, je me suis rendu compte que je suis dans le musée.
Donc vous faites partie aujourd'hui de la culture afro-américaine, Angélique Kidjo.
L'Afrique, parce qu'il y a des Africains aussi dedans. Parce que la traite des Noirs, ça a commencé où? En Afrique. Et on commence à visiter ce musée dans ses tripes, dans les cales des bateaux. C'est assez impressionnant d'être dans ce noir-là.
Ouais, c'est une scénographie assez particulière qui a été imaginée par un architecte anglo-ghanéen.
Ghanéen, ouais.
Qui s'appelle David Ajay.
En fait, le musée, c'est une coiffe africaine.
Un chapeau.
Un chapeau africain. Là, il y a des preuves de vraiment l'organisation qu'il a fallu pour acheter des êtres humains. Quand on dit que c'est les vendeurs qui sont coupables, les acheteurs sont aussi coupables que les vendeurs. Et le mur de la honte, quand on sait que c'est le Portugal qui a exporté plus d'esclaves, l'Angleterre arrive en deuxième, la France en troisième position. Et on ne veut toujours pas parler de ça. Pourquoi on ne veut pas en parler? Pourquoi?
Mais ce musée, c'est quand même une tentative de parler de tout ça qui était portée ou poussée par Barack Obama.
Il n'est pas ici. Il faudrait qu'on en ait le même ici.
Mais qu'est-ce que ça représentait du coup pour vous d'être déjà
là-bas? Ça représentait pour moi un rétablissement de reconnaissance d'un crime qui a été commis comme, contre un groupe de personnes et qui continue à se perpétuer. Parce qu'on visite tout ce musée, ça vous laisse quand même un goût d'inachevé. Parce que c'est une plaie toujours béante aux États-Unis. Mais ce musée-là, c'est pour justement amener les gens à pouvoir en parler de l'esclavage.
C'est un peu ce que vous vouliez faire dans vos disques.
Et c'est ce que je fais dans mon disque. Et cet endroit, et je le conseille à tout le monde. Les touristes qui vont à Washington doivent voir ça. Parce que qu'on ne blâme que les Africains pour la traite des gruyères, c'est d'une lâcheté incomparable pour moi. Ceux qui ont profité de l'esclavage, ce n'est pas nous. L'esclavage a enrichi les pays occidentaux.
Et il a fondé l'Amérique aussi.
Elle a fondé l'Amérique. C'est ça qui a construit l'Amérique, c'est ça qui a construit l'Europe, je suis désolée. Les pays européens, quelle était la main d'œuvre ici pour faire les choses?
À l'inauguration donc de ce musée, Angélique Kidjo, vous chantez. Et Patti LaBelle conclut la soirée avec un morceau.
I was born by the river. In a little tent. Oh, je me rappelle plus la parole. Oh, I never since. It's been a long, long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Et cette chanson a été écrite en 63. On attend toujours le changement. Ce n'est toujours pas là.
Quelques semaines, quelques mois. Après avoir inauguré ce musée, vous étiez de retour à Washington DC, la capitale américaine, cette fois-ci pour chanter sur une autre scène, pour une autre cause, après l'élection de Donald Trump. Vous dites que vous avez vécu cette élection comme un échec personnel pour votre petite famille, un peu comme si le message porté par votre musique avait perdu ce pouvoir. C'est ça que vous avez ressenti, Angélique Kidjo?
Parce qu'on régresse. On élit un homme pour qui les femmes sont comme des mouchoirs, quand on a fini de s'en servir, on les jette, et qui pensent que les êtres noirs sont inférieurs. On est au 21e siècle, on a à la tête du pays le plus puissant au monde, quelqu'un qui divise le monde.
Angélique Kidjo, après avoir inauguré ce musée, vous avez donc chanté à Washington DC, quelques mois plus tard, pour la marche des femmes, The Women's March. Pourquoi que vous avez encore cru à ce moment-là que la musique peut faire quelque chose?
Parce que j'ai été la première femme qui a été invitée à faire cette marche-là. Parce que moi, je suis une indécrottable optimiste. Je peux avoir des moments de creux, mais je remonte toujours. Je dis toujours, on peut tomber plus bas que terre. Mais c'est notre capacité à nous relever de ce trou-là et à pouvoir nous projeter dans le futur. Dès que j'ai eu cette opportunité, je me suis dit, maintenant la lutte continue. Après l'élection, il faut qu'on se batte pour préserver les libertés.
Ça, c'était en janvier 2017. Il y avait Angela Davis, il y avait Jesse Jackson, il y avait Gloria Steinem, il y avait aussi Madonna, Cher. Mm. Et dans le public, il y avait beaucoup de femmes. C'était un moment aussi où vous pensiez...
Et il y avait des hommes aussi sur scène. Maxwell était avec nous. C'était un moment absolument incroyable.
C'est un moment historique.
Historique parce que pour la première fois, quand on parle de problématiques de femmes, c'est toujours souvent les femmes seules qui se retrouvent. Mais quand on a des hommes avec nous, c'est plus puissant.
C'était un concert pour contester la victoire de Donald Trump?
Non, pas du tout. C'était les droits des femmes à leur corps, par rapport à tout ce qu'il a dit sur les femmes pendant sa campagne. C'était seulement pour ça. Parce que quand on laisse passer ces discours-là, la misogynie ordinaire, et on dit qu'on peut, on peut choper la femme par son sexe, et tout ça, c'est d'une vulgarité pas possible, quoi. Donc, notre corps nous appartient, on en fait ce qu'on veut. Malheureusement, les hommes sont obsédés par les corps des femmes, donc c'est les hommes toujours qui sont en train de dire pas d'avortement. Et l'homme qui met une femme enceinte et qui n'est pas là pour s'occuper de l'enfant, il n'a pas de pénalité à payer, lui? Women's March, on parlait de solidarité, de comment est-ce que les femmes se rassemblent et créent une force qui, pour que nos droits ne nous soient pas enlevés, c'est tout. C'était pour ça que j'étais là, parce que la liberté de choix des femmes ne doit pas être un enjeu politique, ne doit pas être des propos pris à la légère, parce que nous sommes plus de la moitié de la population du monde, donc on ne peut pas nous balayer d'un revers de main en disant « vous n'avez pas le droit à la parole, et votre corps, on en fait ce qu'on veut ». Non, il ne faut pas accepter ça. Moi, je n'ai pas une âme de victime, je ne veux pas être victime, donc je peux parler pour moi-même, et si je peux parler pour d'autres femmes qui n'ont pas le courage de venir, je le fais aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté de chanter à la Women's March.
Merci Angélique Kidjo. Continuez à porter d'autres combats avec ou sans la musique. C'est ce que vous avez choisi de faire depuis de nombreuses années et c'est ce dont nous parlerons avec vous demain. Merci Angélique Kidjo.
Merci. À demain. À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Élodie Maillot avec Angélique Kidjo. À voix nue, réalisation Anaëlle Brouard, prise de son Élise Leu, coordination Sandrine Trainer, attachée de production Daphné Abgral. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.